Comment vivre des aventures et nourrir le rêve d'en vivre? C'est une question en commun que nous avons avec mon invité du jour. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 350, j'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans? Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end? Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Soulier, il y a quelques années je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours, mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir et je vais devenir champion du monde de mon monde en finissant mon premier Gravelman. Et c'est ce que je vous raconte dans ce podcast. Et aujourd'hui, on va moins parler de gravel pur, mais plus d'aventures à vélo et notamment en VTT. Benjamin est bien plus jeune que moi, mais on nourrit un peu le même rêve de vivre du sport et vivre notre sport un petit peu comme on le veut, en équilibrant nos défis, nos aventures, la vie professionnelle. Dans cet épisode, Benjamin m'explique son parcours qui l'a conduit jusqu'aux montagnes de l'Atlas au Maroc, sans expérience, pour faire de la Atlas Mountain Race, 1300 km de VTT, 20 000 mètres de dénivelé positif. Une course exigeante organisée par le même organisateur que la fameuse Silk Road, qui figure d'ailleurs au programme de Benjamin. Le truc fou, c'est que si Benjamin a fait du vélo, de la compétition, il a dû arrêter à une époque pour des raisons de santé, il a repris ensuite, mais quand il a fait cette course, en fait, il n'avait quasiment aucune expérience de VTT. Et donc, nous avons discuté justement de comment il s'est préparé, des rencontres qu'il a pu faire, de ses premiers jours au Maroc aussi, puis d'une rencontre improbable au milieu de nulle part. Et puis nous en parler du déroulement de la course, de ses difficultés, des choix qu'il a dû faire par rapport à certains problèmes techniques qu'il a pu rencontrer, par rapport à la nuit, par rapport au repas, par rapport à tout un tas d'éléments qui lui ont permis finalement de finir cette course. Et sachez qu'il en a fait un film qui sera bientôt diffusé. Si vous êtes en région parisienne, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode bien entendu. Et puis Benjamin rêve aussi d'autres aventures, la Grèce d'abord, puis la fameuse Silk Road au Kyrgyzstan. Et puis nous allons parler de comment financer tout ça pour vivre son sport et puis grâce au sport aussi. Mais avant, mon traditionnel fil rouge pour vous dire où j'en suis dans la préparation du Gravelman qui arrive et y arrive. On est à 16 jours du Gravelman Auvergne. Bon, la semaine dernière, j'ai roulé 112 km. La semaine d'avant, j'en avais roulé 123. En fait, j'ai organisé un petit peu différemment les choses. J'ai fait deux sorties, dont une de 75 km. En fait, j'avais prévu de faire 100 km, mais pour des raisons d'organisation, et puis aussi, il y avait des orages, il y avait une vigilance orange. Il y avait vraiment, le temps était vraiment pas terrible sur une partie. J'ai dit, c'est pas la peine de partir sous les orages, surtout s'il prévoit que ça peut être bien fort. Et ben finalement, ça s'est dégagé un peu sur la fin de journée, donc je suis parti bien plus tard que prévu. Puis la route imaginée n'était pas comme je pensais à un moment. Je me suis retrouvé sur une grande route que j'ai pas envie de prendre, il y a beaucoup trop de circulation. J'ai voulu prendre un chemin, mais je me suis retrouvé dans des cul-de-sac, je pouvais plus passer. Donc je suis reparti dans l'autre sens, je me suis fait attraper par la nuit, par le froid. Donc j'ai fait finalement 75 km. Je suis content parce que les 75 km sont bien passés. Au total, j'ai fait 5h43 d'heures de sel sur la semaine, contre 6h51 la semaine d'avant. Et 443 de dénivelé positif contre 1194 la semaine d'avant. Bon, là, ça a bien baissé. Mais ce qui vient aussi, que maintenant, je roule à Vichy. À Vichy, c'est beaucoup plus plat que là où j'étais avant. Donc, ça s'explique assez facilement. Bon, la grande leçon de la semaine dernière, c'est que j'avais prévu de faire une sortie de 100 km le dimanche, donc j'ai pas pu la faire. Et en fait, je voulais faire une sortie de 100 km avant le Gravelman, qui était pour moi un point de réassurance. Et je pense qu'en fait, que je pourrais pas la faire pour des questions d'organisation personnelle, familiale, avec des week-ends avec ma fille, voilà, et ça va être un peu compliqué de la faire. Sauf s'il y a des changements de dernière minute, mais pour l'instant, je pense que je ne pourrais pas faire cette sortie de 100 km avant le Gravelman Auvergne. Donc on pourra dire que le Gravelman Auvergne sera mon premier passage déjà au-dessus de la barre des 100, et donc la découverte de distance à trois chiffres lors de ce week-end-là. Toutefois, je me sens globalement prêt physiquement, et puis en fait, j'ai un plan de cumul de vélo et de course à pied qui me permet de faire des enchaînements, qui crée de la fatigue musculaire et demande aussi des ressources mentales assez importantes. Et je pense que finalement, c'est aussi un moyen différent de préparer, c'est-à-dire que plutôt que de faire de longues heures de sel à vitesse, que de la vitesse lente par moment, etc., et de cumuler des heures de sel comme ça, là finalement je fais un mix entre de la course à pied, du vélo, donc des sorties, j'essaye d'avoir des sorties plus longues en vélo, mais j'essaye aussi en fait d'avoir des sorties qui sont un peu plus courte, mais avec aussi un peu plus d'intensité. Je vais aller chercher aussi certaines choses particulières à travailler. Par exemple, l'autre jour, j'ai roulé une heure assez vite, et puis j'ai enchaîné directement, mais vraiment directement, dans les 5 minutes, un peu façon triathlon, une heure derrière de course. Les jambes étaient très lourdes, physiquement c'était un peu compliqué, mentalement aussi, pour ne pas lâcher. L'allure était pas très lente en plus, donc c'était vraiment un bon travail. Et puis j'ai aussi par exemple roulé une heure et du dénivelé pour enchaîner ensuite, un peu plus tard cette fois-là, 16 km de trail avec du D+. Donc en fait, dénivelé le matin en vélo, dénivelé l'après-midi en course à pied, un volume d'entraînement sur la journée qui dépasse les 3 heures, donc ce qui est finalement pas mal du tout aussi. Et ça maintient globalement un volume d'entraînement autour de 12 à 13 heures par semaine, qui est supérieur en fait à ce que j'avais imaginé au départ, puisque au départ, quand j'avais commencé à préparer, j'avais dit les jours où je fais du vélo, je cours très peu, je continue à courir 10-15 minutes en guise d'échauffement. Et en fait, j'ai changé de plan, hein, c'est-à-dire que je peux rouler une heure ou deux heures, courir une heure dans la même journée, et créer ensuite des fatigues comme ça, de l'entraînement croisé. Je vais voir ce que ça donne, vraiment je vais voir ce que ça donne. En plus dessus, j'ajoute de la marche quotidienne. Par exemple, je fais des coachings en marchant, je fais des rendez-vous téléphoniques en marchant. Donc j'ai un volume qui devient vraiment plus important comme ça, mais pas forcément qu'avec que des chocs, etc. Avec aussi bah, finalement une sorte d'endurance globale hein, par la marche, de parler en marchant comme ça aussi, ça travaille l'endurance globale. Donc je pense hein, que c'est une stratégie qui peut être payante. On va voir justement si elle est efficace, si ça fonctionne. Et comme je disais, on a 16 jours du Gravelman Auvergne. Donc maintenant, il me reste une grosse semaine sur le plan physique pour finir de bosser sur le plan physique, sur la préparation, etc. C'est là où peut-être il peut y avoir une dernière grosse sortie, fameuse sortie à 100 km. Est-ce que je la ferai ou pas? Je pense que non. Mais pour l'instant, c'est ouvert encore. Hein. C'est-à-dire que il peut y avoir une possibilité, mais je pense que ça sera compliqué de le faire. Et puis ensuite, j'attaquerai sur 8 jours plus cool qui précéderont la course, où là, je ferai en fait du jus, comme on dit, hein, tout simplement, en baissant l'intensité à la fois en vélo et en course, pour vraiment faire du jus et puis pour faire les derniers préparatifs techniques, derniers trucs d'organisation. Mais ça, je vous raconterai ça plus tard. Voilà, bah, ceci étant dit, le bilan étant fait, l'invité étant présenté, maintenant, je vais vous laisser avec ma discussion avec Benjamin. Allez.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
C'est parti. Bonjour Benjamin.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
En pleine forme.
Eh ben écoute, tant mieux. Hein, tant mieux, parce que là, on va parler sport, on va parler de vélo, bien entendu. On est sur kilomètre 150, on parle de vélo. Je t'ai invité parce que j'avais vu il y a quelques temps, mais je me rappelle plus il y a combien de temps, c'était ta petite épopée au Maroc. Ça m'avait dit, tiens, j'ai envie de savoir qui est ce bonhomme qui fait ça. Et ce que je te propose d'abord, c'est de te présenter, puis après, on parlera de tes aventures et ton parcours en vélo, parce que tu as quand même plein de trucs à raconter dans ce domaine-là. Et je suis sûr que tu auras plein de conseils aussi pour moi qui me lance dans cette endurance, cette ultra-endurance.
Eh ben écoute, effectivement, le Maroc, c'était il y a 2 mois, cette aventure au Maroc, un peu plus de 2 mois même. Donc, je m'appelle Benjamin, j'ai 25 ans, je suis un passionné de vélo et même de sport de façon générale. J'ai des rêves et j'ai envie de les accomplir, notamment dans le sport. Alors, tant bien que mal, j'essaye d'y arriver. Puis, si ce n'est pas le cas, tant pis.
Bah écoute, c'est bien d'avoir des rêves. Bon, pour pas le cacher, on avait discuté la semaine dernière, on avait commencé à discuter un petit peu. Et c'est vrai qu'en fait, t'as des rêves qui correspondent un peu paradoxalement aux miens. Enfin, paradoxalement, non, mais c'est juste qu'en fait, ce matin, je disais en plaisantant dans mon podcast privé, je disais, j'enregistre avec un gamin qui a la moitié de mon âge. Alors, t'as pas la moitié de mon âge, parce que j'en ai pas 50. Mais comme j'en ai 46, et je m'approche des 47, je regarde le truc et je me dis qu'en fait, c'est cool que t'aies tes rêves à cet âge-là, en fait, parce que t'as plein de... j'ai envie de dire, t'as beaucoup plus d'années pour les réaliser. Puis, t'as probablement pas aussi certaines contraintes qu'on peut avoir, qui sont les loyers, les prêts, les enfants, la famille, ou je sais pas comment, tu vois. Et je me dis, c'est cool d'avoir les rêves que tu as. Alors, Tu sais quoi, on va commencer par les rêves et ensuite on fera un flashback, on reviendra sur les autres choses. Ouais. C'est quoi ton rêve ?
Je dirais que mes rêves, en tout cas, ils viennent surtout un peu de l'enfance, de ce que j'ai pu lire, des documentaires que j'ai pu voir autour d'exploits sportifs ou même de bandes dessinées comme Tintin quand j'étais jeune. Mm. Donc ça va tourner autour du voyage, autour de l'aventure, autour de défis à réaliser. Je pense que mon premier défi, et d'ailleurs il était assez similaire au tien, c'était de faire un marathon. Longtemps, j'ai vu ça comme un graal et je me suis dit, je n'arriverai jamais, il faut que j'en fasse un jour dans ma vie. Et j'ai eu cette opportunité en 2018, grâce à mon école, j'étais en école d'ingé. Et chaque année, il y a un marathon, enfin, il y a la possibilité d'avoir un dossard avec le marathon de Metz-Mirabel. Mm. Un peu sur un coup de tête, je me suis dit, allez, go, marathon de Metz-Mirabel, on va le faire avec plein de potes et ça va être génial. Et en l'occurrence, ce qui m'avait dit, là où je me suis dit c'est possible, c'était quasiment un an avant, où je participais à une épreuve un peu étudiante de sport qui s'appelait la course croisière EDEC. Mmh. Avec, il y avait un trophée terre où tous les jours en fait on courait, on nageait, on faisait de l'escalade, du VTT, plein de choses, un peu en mode raid. Et il y avait une épreuve un peu d'endurance, bike and run et run, qui avait duré plus de 3 heures. À fond de laquelle je me suis dit bon. Un marathon, on va dire que c'est 4 heures. Je viens de faire 3 heures de sport, je peux en faire 4. Mm. Et c'est un peu de là d'où c'est parti.
C'est marrant ce que tu parles de la course EDEC, parce que moi j'avais souvenir que la course EDEC c'était de la voile. Alors, j'ai pas souvenir
de la voile.
Raid, ouais.
C'est de la voile. Et à l'époque, moi je la faisais, donc c'était en 2018, il me semble. 2018. Il y avait un trophée voile, un trophée terre, donc accès raid, et un trophée sable, accès vraiment vacances, beach volley, etc. Je crois que là, ils ont fusionné le trophée terre et le trophée sable pour faire un truc un peu plus accessible, mais sympa pour tout le monde. Voilà. Ouais. Moi, en vacances.
D'accord. Mais tu vois, ce trophée EDEC, c'est vrai que c'est vieux, parce que quand j'étais étudiant en école de commerce, il y avait une équipe qui se préparait pour faire le trophée EDEC, chercher les budgets, comment avoir tout le budget pour ça, mettre les sponsors, etc. De même qu'il y avait les fameux étudiants, il y a le 4L Trophy aussi, qui existe toujours. Ces raids étudiants, il y en a plein des raids comme ça. Et puis là, on parle des étudiants, mais il y en a aussi chez les femmes. Il y a aussi tous les raids dont on parle, etc. Mm. Et puis là, on enregistre, il y a le Marathon des Sables en ce moment, ils sont en plein dedans. Toi, c'était pas le Marathon des Sables, et finalement, le Maroc, c'était quoi, du sable, de la caillasse
Alors, du coup, j'ai participé à deux éditions. Une première année en 2018 à Brest, où du coup, j'ai découvert la Bretagne. Mm. C'était principalement fait sur des côtes, sur les côtes bretonnes, on montait les falaises, on les redescendait, quoi.
Ouais.
Et parfois, on allait sur la plage. Donc, c'était plutôt trail comme terrain, on va dire. Mm.
Oui, et la deuxième édition, tu as dit, première édition, c'était
Et la deuxième, c'était, je me souviens plus l'endroit exact, mais c'était du côté de La Rochelle. Mmh. Et c'était assez similaire, un peu plus simple, il y a moins de falaises là-bas.
D'accord.
Plus de sable.
Et donc, tu me disais, tu t'es dit, à ce moment-là, tu t'es dit, bon, je suis capable de faire 3 heures de sport, je suis capable de faire un marathon. Donc, tu as fait ton marathon.
Ouais.
Bon. Et tu en as refait qu'un ? Tu en as refait d'autres, d'ailleurs ou...
Ouais, je n'en ai plus jamais refait. Je l'ai fait en 4h04. Je crois que je passe en 1h50 au semi, puis j'explose en 2h15 sur le deuxième semi. Et c'est mon seul marathon. Enfin, d'après, j'étais un peu détruit physiquement. Ça m'a bien fatigué. Et j'en ai refait un, si en l'occurrence, sur un Ironman. Donc, autre format et autre expérience.
Est-ce que tu as fait un Ironman aussi ?
L'année dernière.
Ouais. Ouais.
Après le Graal, après le marathon, c'était l'Ironman.
Ouais, mais alors ce qui est drôle, c'est qu'à 25 ans, quand même, t'as fait un marathon, t'as fait un Ironman. Parce que d'habitude, on dit que ces genres de défis, c'est pour les vieux. Mais ce qui montre en fait qu'il y a vraiment tous les âges, quoi. C'est vraiment c'est ouvert à tous les âges. Mais c'est vrai qu'avant, on disait l'endurance, notamment ces endurances longues, c'est plutôt pour les vieux, quoi. En vieillissant, on perd de la vitesse, on gagne de la résistance, donc on va plutôt dans ces courses-là d'endurance. Mais c'est vrai qu'après, on regarde sur le trail aussi, sur les jeunes, etc. Il y a de plus en plus jeunes qui s'attaquent au trail, longue distance, et on voit que ça va aussi beaucoup, beaucoup progresser par ce biais-là. Pour autant, la course à pied, c'était pas ton sport de départ.
Effectivement, comme tu peux l'imaginer, enfin, comme on a pu en discuter, mon sport de départ, c'est le vélo. Je suis un passionné de vélo, et j'en ai fait quand j'étais jeune. Mais je me suis notamment blessé après une saison que j'ai fait en cadet. J'étais pas parmi les plus performants, Mais j'avais quand même beaucoup apprécié l'expérience et faire des courses, mettre un dossard. C'était des courses à l'époque qui duraient à peu près 2 heures. Je faisais 70-80 km. Et j'adorais ça. L'adrénaline de départ, toute la préparation avant, l'adrénaline, un peu les stratégies de course. Et je me suis blessé au dos en fin de première année, première saison de cadet. Et après ça, on n'a pas trouvé les causes exactes de mes problèmes de dos. J'étais en première à l'époque. L'année suivante, je passais le bac. Je me suis concentré un peu sur autre chose, sur les études. J'ai fait une prépa, j'ai fait une école d'ingé. Et durant cette école d'ingé, j'ai fait 2 fois la course croisière IDEC, un marathon. Et ensuite, après l'école, je me suis fait opérer du dos. Je me suis remis. Enfin, c'était quand même très contraignant au quotidien, assez handicapant. J'ai recherché un peu à nouveau les causes. On a fini par trouver, enfin, pas forcément la cause qu'on a trouvée, mais comment soigner un peu les symptômes. Je me suis fait opérer du dos et j'ai pu reprendre le vélo il y a maintenant 2 ans.
Il y a 2 ans. À l'époque, quand tu étais en cadet, c'était la course sur route que tu faisais.
Le gravel était très peu développé. Voilà, il y avait plusieurs disciplines distinctes, notamment VTT et route. Le gravel, ça n'existait pas.
Ouais, et puis il y avait en saison d'hiver, j'imagine, il y avait peut-être, je sais pas si ça en faisait aussi ou pas, mais un peu de cyclocross qui
Ouais,
ressemble au vélo
tout à
plus
fait.
proche du
Ouais,
gravel,
c'est
quoi.
vrai. C'est vrai. J'avais fait quelques courses de cyclocross. Alors, c'était pas ma spécialité, mais c'était assez formateur. Et en l'occurrence, je me souviens, ouais, j'utilisais un vélo du club à l'époque. Parce que les vélos de cyclocross, le premier prix, c'était un vélo qui pesait 10 kilos et qui était à plus de 1 000 euros. C'était très peu accessible. Et je pense que le gravel a permis de rendre justement plus accessible la discipline du cyclocross avec des vélos maintenant de meilleure facture, moins cher, de plus léger, plus résistant, et qui en plus, du coup, sont un peu plus polyvalents, quoi.
C'est vrai que, tu vois, je me rappelle, moi, un jour, bon, je travaillais pour un marchand de vélo à une époque, et j'ai vu, il avait un cyclocross dans sa boutique, parce qu'il y avait le club de vélo juste à côté. J'avais vu, j'ai trouvé qu'il était magnifique ce vélo. Je dis, mais tu fais quoi avec? Il me dit, bah, c'est du cyclocross et tout. Alors après, je regardais, bon, cyclocross, c'est quand même pour ceux qui font du cross en course à pied, parce que moi, c'était mon cas, j'avais fait un petit peu, on sait que c'est quand même très violent. J'ai quand même souvenir cet hiver d'avoir vu une vidéo de François Pervis, qui est quand même qui a tellement de médailles sur route, sur piste, pas sur route, mais sur piste, en pagaille, en pagaille, en pagaille, et qui en a vraiment souffert, parce qu'on est vraiment comme dans le cross à pied, hein, c'est-à-dire que là, il y a de la boue, il y a des petits obstacles au milieu, c'est de la relance, etc., en permanence, c'est quand même une discipline très particulière, mais qui, j'imagine, super formatrice, quoi.
Ça dure 1 heure, effectivement, le cœur, il est à 90-95% tout le temps, quoi. Et en plus de ça, c'est technique.
Et en plus, c'est technique parce qu'il y a des passages. Certains les passent en sautant d'ailleurs, les petits obstacles. Il faut monter, ou sinon, faut monter, descendre du vélo en permanence. Puis il y a des petits raidillons, il y a la descente, c'est balèze quand même. Hein.
Il y a de la boue. Non, c'est génial. Quand on est gosse, faut avoir un peu grandi avec cette culture-là aussi. C'est difficile de s'y mettre un peu plus âgé, je pense. Faut avoir envie, mais c'est super sympa.
Ouais, je crois que l'article sur François Pervis posait la question à la fin de dire mais qu'est-ce qu'il foutait là? Mais c'est vrai que après et on le voit chez les meilleurs cyclistes, hein, les tops, les tops là, les Wout Van Aert et compagnie qui ont aussi ce parcours en cyclocross. Quand on a vu leur duel en cyclocross, quand on les voit sur route, etc., on voit aussi. Et c'est comme le cross, hein, il n'y a pas à dire. Pendant toute la saison d'hiver en course à pied, on voit beaucoup beaucoup de gens sur le cross. On sait c'est à quel point c'est formateur, à quel point ça travaille le mental et tout. Donc j'ai pas de doute que le parallèle existe aussi vraiment. Alors, il y a 2 ans, donc, tu as pu reprendre le vélo. Tu as repris la route ou tu as fait comment tu as fait?
Alors, donc j'ai commencé par faire une étude posturale. Ensuite, avec mes économies de stage, j'ai pu m'acheter, je crois que c'était le cadre EDR, enfin le vélo cadre EDR de chez Decathlon avec un groupe Ultegra. J'ai fait ça, j'ai acheté ça. Et puis j'ai repris le vélo sur route. J'ai téléchargé Strava, je connaissais pas à l'époque. Et puis voilà, je vais commencer à m'entraîner, à retourner vers le club de mon enfance, qui était le CSM plutôt, en Île-de-France. Ensuite, l'objectif, ça a été de mettre un premier dossard. C'était vraiment ma volonté, ce dont je rêvais depuis depuis toutes mes années d'études, c'était remettre un dossard. Retrouver cette sensation de se retrouver dans un peloton de 80 coureurs, 100 coureurs, et tout donner tout le temps. Donc j'ai eu l'occasion de le faire assez rapidement, malgré, c'était la fin du Covid à l'époque, des annulations de courses pour le Covid, etc. Donc j'ai attendu un petit peu, mais au mois de juin 2021, du coup, j'ai pu remettre un dossard. J'étais comme un fou, j'étais super content, j'ai pu refaire une SAP, des trucs comme ça. Donc ça, c'était top. Et ensuite, l'objectif d'après, c'était une semaine entre potes, un peu le genre de semaine dont on avait parlé au lycée. Ouais, c'était de se faire une semaine dans les Alpes ou dans les Pyrénées, et de faire des cols tous les jours, et même une cyclo-sportive. Donc c'est un petit rêve qu'on a pu réaliser du coup avec un pote de lycée avec qui je roulais à l'époque. Une semaine entre potes où on était 4-5 et on commençait par une cyclo-sportive. Donc là, en l'occurrence, c'est dans les Pyrénées, à Saint-Lary-Soulan, qui s'appelait la Pyrénéenne, et où on passe quelques cols mythiques. Et là, le jour où j'ai pu terminer cette course, ouais, c'était déjà un bel achèvement. J'étais vraiment super content. J'avais un peu pris ma revanche sur ce que je voulais accomplir, en tout cas dans le monde du vélo.
Et ça doit pas être facile quand même, parce que tu reprends le vélo il y a 2 ans, donc tu as 23 ans, t'étais blessé autour des 17 ans, on va dire.
Ouais.
Donc en 6 ans, les autres, ils ont pas arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont continué à pédaler, à avancer, etc.
Ouais.
Il doit y avoir un sacré choc. Moi, je me rappelle, j'avais été dispensé de gym à cause de mes genoux quand j'étais au collège, entre le collège et le lycée. Autant au collège, j'étais un bon sportif, autant au lycée, j'étais devenu totalement nul. Alors ouais. Là, je me dis, entre 17 et 22 ans, les gars, ils se sont développés, ça avance, etc.
Ah bah ouais.
Enfin, je veux dire, tu croises pas les mêmes bonhommes, quoi.
Ouais, carrément. Il y a des gens avec qui j'ai eu l'occasion de rouler qui sont maintenant passés pro. Donc, tout de suite, tu te dis, bon. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'après ça, je suis pas forcément allé rechercher la performance. Parce que déjà, je pouvais plus être le meilleur de ma classe d'âge, ça c'était sûr. Et c'est peut-être un des facteurs qui m'a tourné vers. Les épreuves un peu plus longues, un peu se différencier ou se tester sur des formats sur lesquels on a moins de, pas forcément de concurrence, mais en tout cas de référence.
Ouais, ou finalement aussi, t'as peut-être. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de course, parce que sur ces formats longs, il y a quand même des déclassements, celui qui arrive le premier. Ceux qui suivent les aventures de Stephen Leyarick savent, ont pu suivre les péripéties, les calculs à la seconde ou à la minute près pour arriver dans les autres. Donc, ça fait partie aussi du jeu, mais c'est vrai que tu peux aussi les faire dans un esprit. Et là, on retrouve un peu aussi l'esprit trail. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont jouer pour aller le plus vite possible, et puis il y a ceux qui vont se dire, je veux le finir, ou je veux le faire dans le meilleur temps que je peux, etc.
Ouais.
Donc, t'as pas la même relation qu'une course où c'est le premier qui arrive à gagner, quoi.
Ouais, c'est assez différent. Il y a un esprit de solidarité qui se crée. On est tous un peu dans la même galère, on veut tous aller au bout. Donc, il y a un esprit d'équipe qui se développe, qui est super sympa.
Alors à ce moment-là, en fait, tu te dis bon, je vais aller m'orienter vers des nouvelles types d'épreuves. Tu te dis je peux faire de l'endurance, des choses comme ça. Mais en fait, tu choisis une course, tu fais quoi à ce moment-là? Tu te dis comment tu t'y prends?
Alors en juin 2021, enfin en juillet 2021, quand j'ai fini ça. Déjà, je finis ma saison sur route. Je fais les courses un peu du club en Île-de-France. C'est des courses qui sont à peu près tous les week-ends où on a l'opportunité de courir dans des pelotons d'entre 50 et 100 personnes. Donc là, l'objectif d'après, je pense que c'était gagner une course. Ce que j'ai mis pas mal de temps à faire. J'ai mis plus d'un an, un an et demi à le faire. Donc ça, c'était un peu un objectif un peu au quotidien. Et ensuite, je me suis mis un deuxième objectif grâce notamment à des rencontres. Après mon école d'ingé, j'ai fait un master en école de commerce. Un master dans lequel il y avait énormément de sportifs, mais pas forcément des cyclistes. Et finalement, un des sports qui nous rassemblait le plus, tous, c'était le triathlon.
D'accord.
Parce que c'est souvent une ambiance assez familiale. Il y en a beaucoup qui en avaient déjà fait. Et donc, avec un groupe, avec pas mal de monde de la classe, on s'est chauffé à participer en fait à un triathlon qui s'appelle le T24. C'est à l'île de Ré. Enfin, il y en a trois. Il y en a un à l'île de Ré, un au Touquet et un à Bormes-Mimosa. Et donc, on est tous, nous, allés à l'île de Ré. On était une quarantaine de la classe à y aller. Et c'est un triathlon qui dure 24 heures. 4 heures natation, 12 heures de vélo, 8 heures de course à pied, et qui se fait en relais.
D'accord.
Tu peux le faire à 6, 4, 2 ou même en individuel.
Ouais.
Donc il y en a toujours un qui est sur la course et les autres qui se reposent. Et c'est un format qui est super bonne ambiance, qui ne nécessite pas que tout le monde soit à top performance. Et qui permet à tout le monde, c'est très accessible et ça, c'est très inclusif, donc super sympa. Et on a tous fait ça à l'île de Ré, et en parallèle avec un ami on s'est dit bon, on va essayer de, maintenant qu'on s'entraîne un peu pour du triathlon, est-ce qu'on se chaufferait pas pour un objectif un petit peu supérieur, et donc voilà, l'Ironman. Et donc j'ai pu participer à l'Ironman d'Aix-en-Provence. C'était mi-mai 2022, d'accord, l'année dernière. C'était, je crois, la seule édition en full Ironman. Ça repasse en 70.3 l'année prochaine, enfin cette année. Et vraiment dingue comme ambiance, quoi. Un week-end où il fait beau, au soleil avec Aix-en-Provence, c'est incroyable.
Ouais, et puis alors pour toi, qui venais, alors toi qui as couru un marathon, tu dis, chez courir le marathon.
Oui.
Je suis aussi faire du vélo, donc c'était pas la partie la plus compliquée après. Enfin, tu savais préparer ça. La natation, ça s'est bien passé ?
Ah, c'était cata, mais je m'y attendais. Après, je m'étais préparé pour. Je savais que ce serait cata, mais du coup, j'ai essayé de limiter au maximum la casse, du coup, en m'entraînant à la natation. Je suis allé nager, j'ai beaucoup nagé. 6 mois avant, j'y allais 3 fois par semaine.
Ouais.
À la natation, faire 45 minutes, 1 heure. Mais il s'est trouvé que les 4 mois avant l'objectif, j'ai pas pu nager. J'étais à San Francisco et c'était pas du tout une priorité, la natation. Donc je suis rentré peut-être un mois avant l'objectif en France, donc j'ai eu quelques automatismes à retrouver, surtout sur la technique. Après, physiquement, j'avais perdu un peu, mais c'était pas si grave. Et puis sinon, finalement, aussi acheter une combinaison de natation, enfin, en l'occurrence je crois qu'on en a prêté une, et m'y habituer un petit peu, parce que c'est des sensations qui sont un peu différentes de nager en lac que de nager en piscine.
Ouais. Oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que l'eau libre, hein, c'est particulier. Moi, je sais qu'il fait un swim run, entre la piscine et tout d'un coup se retrouver dans un lac où il y a des branches, où l'eau n'a pas la même couleur, où tu n'as pas les petits carreaux au fond. Et encore, moi, je m'étais entraîné en mer, en fait, dans un espèce de bras de mer et tout, pour me préparer avec un peu de courant, etc. Mais c'est encore différent. C'est vraiment encore différent. C'est vraiment très spécial. Voilà, ceux qui, il faut s'y habituer. Mais après, je sais que j'ai deux éditeurs qui font beaucoup d'eau libre et qui adorent l'eau libre, etc. Qui nagent d'ailleurs assez peu en piscine, qui aiment pas trop ça. Et certains m'ont dit, ouais, mais même en hiver, ils allaient nager en eau libre avec des grosses.
C'est légitime.
Bien entendu. c'est vraiment une discipline qui est différente. Mais c'est vrai que, en fait, faut s'y habituer pour ceux qui prévoient de faire ce genre de discipline. Il faut s'habituer, il faut faire des séances dedans pour s'habituer à ça. Donc, tu bookes ton Ironman. Ouais. Donc, c'était en 2022, donc mi-2022, on va dire, grosso modo.
Ouais.
Et en fait, qu'est-ce qui t'amène entre ce moment où tu fais l'Ironman et le Maroc il y a 2 mois ? Parce que le Maroc il y a 2 mois, donc c'était au février, hein, c'était ça.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Tu te dis quoi ? Tu te dis, je me cherche une nouvelle aventure, je cherche quelque chose d'intéressant. Comment tu réfléchis à ça, en fait ?
Effectivement. Alors, il y a déjà une seconde expérience qui suit l'Ironman, qui m'a fait découvrir un petit peu l'ultra-distance sans vraiment en être. C'était l'étape du Tour de France l'année dernière. Donc, c'était 160 km avec 3 cols mythiques.
Ouais.
Et bon, je le boucle, je suis super content de ma performance. Je fais top 200 en 6h37 sur 15 000 personnes. Donc j'étais super content, sauf que je m'étais garé à Briançon au départ de la course. Et il se trouvait que ça se finissait à l'Alpe d'Huez.
Ah ouais.
Donc le retour Alpe d'Huez-Briançon, c'était Col de Sarenne, Col du Lautaret, 70 km.
Et il ne vous l'a pas dit ? Vous n'avez pas fait des petites...
Si, mais bon, c'était... Je crois que même le faire à vélo, c'était plus rapide que le faire en voiture, vu les embouteillages qu'il pouvait y avoir, etc. Et donc, sur Met, presque 3 heures de vélo après l'épreuve, en arrivant quasiment même de nuit à la voiture. Et en plus, dans l'épreuve, je ne m'étais pas ménagé, quoi. J'avais pas prévu le retour. C'était une première épreuve un peu d'endurance pour moi. J'ai dû faire 230-240 km, je n'avais jamais fait autant.
Ouais.
Je me suis dit, bon, c'est quand même sympa, c'est marrant. je résiste plutôt bien. Je serais curieux de voir jusqu'où je peux aller là-dedans.
D'accord.
Un peu dans mes limites, en poussant, par exemple, une journée à fond sur le vélo. Bon, ça reste un petit peu dans un coin de ma tête. L'été se passe. Je finis, à l'époque, j'étais en stage dans une équipe de vélo en tant que business developer dans une équipe à Lyon qui s'appelle le Corba Lyon Métropole. Et je finis fin septembre. Ensuite, j'avais une petite thèse de master à rendre que je finis en novembre. Et c'est une époque où je découvre l'Atlas Mountain Race. Je la découvre assez simplement en fait en traînant sur Internet. Il y a pas mal de vidéos YouTube qui en parlent de cette course. Des scores à 300 000 vues. Et d'ailleurs, je suis même un petit peu l'édition, la deuxième édition qui se déroulait en octobre 2022, qui a été décalée avec le Covid, etc. Donc, je suis un peu ça. Ça m'intrigue et je me dis, c'est quand même un truc de dingue. Jamais j'y arriverai. Je me dis, c'est incroyable, mais c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire. C'est quand même beaucoup de bikepacking quand même. J'en ai jamais fait de ma vie. C'est du VTT, j'en ai jamais fait de ma vie. Bon, je me dis, mais c'est quand même super sympa, quoi. Et donc, je finis mon master. Je regarde un petit peu, je cherche quelques opportunités d'emploi. Je candidate un petit peu à droite à gauche dans le milieu du sport. Mais il n'y a rien qui m'intéresse vraiment ou rien dans lequel je me projette et où j'ai une opportunité. Donc, je me dis, je vais avoir 25 ans. Est-ce que ce ne serait pas le moment d'essayer d'accomplir quelque chose d'un peu fou? J'ai plus rien à prouver à qui que ce soit. Entre guillemets, bon, j'ai fait un Ironman, un marathon. Bon, je suis un cycliste, entre guillemets, déjà accompli. Donc, je me dis, est-ce que je n'essaierai pas de trouver quelque chose qui m'intéresse moi et que je ferai uniquement pour moi et sans autre prétention? Je me dis, OK, pourquoi pas l'Atlas Mountain Race? Ça a l'air absolument génial. sauf que je n'ai pas de vélo. J'ai jamais fait de bikepacking, comme je te dis. Donc je me dis, tout ça, finalement, c'est quand même un beau projet. C'est un gros projet. Ça a nécessité beaucoup de préparation et au-delà de l'entraînement, un bon conditionnement mental, en tout cas. Donc là, on doit être en décembre de l'année dernière. Donc, avec ce qui me reste de mon prêt étudiant, j'achète un vélo. Pour tout ce qui est matériel de bikepacking, j'investis pas,
ouais.
Mais je mets un message sur un groupe Facebook qui s'appelle, j'ai plus le nom exact, mais c'est un, je te le retrouverai. C'est un groupe d'aide aux néo pratiquants de l'ultracyclisme et du bikepacking.
D'accord.
Il va y avoir 7500 personnes dessus et c'est l'administrateur qui me répond et qui propose de me rencontrer. Et lui a plein de matériel, il s'en sert pas cet hiver.
D'accord.
Donc il me dit on peut voir pour s'arranger pour que je te prête ce dont tu as besoin. Donc ça me permet d'avoir du bon matériel et surtout des bons conseils.
Ouais, vu agile.
J'en ai jamais fait, je te dis. Donc vraiment, comment utiliser même rien qu'une sacoche de sel, c'est pas forcément évident. Parce que tu as déjà plusieurs modèles différents et qu'est-ce que tu vas mettre dedans, comment tu vas t'organiser, etc. Qu'est-ce que tu dois absolument prendre. Donc ça, j'apprends un peu tout ça, entre guillemets, puis je commence à tester. On est en décembre, l'objectif c'est en février, ça arrive assez vite. Donc j'ai la chance de pouvoir partir un peu à la montagne l'hiver. Donc j'ai pu tester un peu le vélo en conditions réelles, c'est-à-dire en montagne, dans la neige, à la frontale la nuit,
ouais.
Et avec un peu de matériel. Donc ça, pour l'expérience, c'était vraiment top. Parce que finalement, c'est des conditions qui ressemblaient beaucoup à celles que j'ai retrouvées au Maroc.
Ouais.
Je ne savais pas forcément à l'époque qu'il ferait aussi froid.
Ouais.
Mais c'était assez formateur. Et j'ai continué ma préparation. Je voulais aussi tourner un petit documentaire, un petit reportage. Donc, j'avais une GoPro, donc ça m'a permis de faire pas mal de tests caméra, pas mal de choses pour voir comment vloguer, comment essayer de faire un truc sympa. Parce que j'avais jamais non plus forcément filmé ou même monté.
Ouais.
Donc, décembre, janvier, et puis fin janvier, c'était le départ pour le Maroc.
Ça paraît super court quand même. Alors, bien sûr, toi, tu viens du vélo, donc pédaler, c'est un truc que tu sais faire.
Ouais. Même si tu dis que tu as fait un peu en montagne, un peu d'entraînement, etc. Enfin, tu n'as pas quand même un gros vécu de VTT, il est très faible.
Ouais.
Pour une course qui, je vais le dire quand même, fait 1302 km avec 20 000 mètres de dénivelé, 20 200 mètres de dénivelé. Je pense que ça ne fait pas que rouler parce qu'il y a du portage, il y a des trucs très techniques, ouais. Il y a de la montagne, etc.
Ouais. Ouais. Donc, d'où aussi la nécessité d'avoir pris presque 2 mois plein pour préparer cette course. Au quotidien, j'étais très actif. Je ne perdais pas une heure à droite à gauche. J'avais pas mal de tâches tous les jours. Et bon, même s'il y a des choses sur lesquelles je me souviens assez en retard, comme par exemple monter des pneus tubeless sur le vélo, ce qui au final était une très bonne idée d'ailleurs.
Ouais.
Mais oui, ça a été une sorte de mini formation accélérée sur 2 mois. Ouais.
Ouais. T'es dans quel état d'esprit au départ quand tu prends la course, enfin quand tu pars au Maroc en fait?
Ouais.
Tu te dis quoi par rapport à ce défi que finalement tu connais pas, puis je veux dire que t'as pas commencé par une course de 300 bornes, une petite course de 300 ouais. bornes ou quoi que ce soit quoi. Tu commences par l'une course qui est en plus organisée par un organisateur qui a des gros défis dans son catalogue, je veux dire. Tu t'attaques déjà directement, j'allais presque dire à un monument, même si c'est une course qui est assez récente. Tu t'attaques déjà, en fait on sait déjà que ça va être dur dès le départ quoi.
Alors, plusieurs éléments. Déjà, le premier, c'est que pour participer à cette course, j'ai dû candidater.
Ouais.
J'ai dû faire un dossier, etc. Donc, je me suis finalement, en fait, déjà bien engagé, c'était en novembre, dans cette course, psychologiquement en tout cas, déjà à découvrir le tracé, à découvrir toutes les contraintes. Effectivement, la course, c'est de la montagne, donc il demande de l'expérience en montagne. Et donc, tout ça, ça m'a permis de me conditionner, de me dire, OK, si je veux y arriver, il faut que je sache faire ça, ça, ça et ça. Donc, ça m'a aidé à me préparer déjà. Et ensuite, le fait d'avoir été accepté du coup à faire la course, c'était à la fois une preuve de confiance de sa part, de l'organisateur, en mode « Ok, si il peut le faire, parce qu'il ne prend pas quelqu'un qui ne peut pas faire la course, bien qu'il n'y ait que 50% de finishers à la fin, il ne va pas s'amuser à prendre des gens qui ne sont pas capables de la faire. Il ne prend que des gens qui potentiellement peuvent finir. Mm. Après, voilà, y a énormément d'aléas, donc il n'y a pas que des finishers. Donc déjà, ça, c'était plutôt positif. Mais c'est vrai qu'en janvier, j'étais très peu confiant. J'ai toujours mes problèmes de dos. Alors, c'est un peu moins qu'avant, mais ça reste il persiste. Et c'est d'ailleurs peut-être la raison pour laquelle l'ultra, je l'ai commencé en VTT et pas en route. Parce qu'en VTT, on a la chance de beaucoup changer de position. Comme tu le dis, on descend parfois du vélo. J'avais aussi des aérobars. J'avais une position encore supplémentaire pour soulager le dos. Et c'est quelque chose qui est un peu moins sur la route quand même. Ce changement de position assez fréquent. Ouais. Donc, il y a ça. Et donc, je me dis, bon, c'est quand même, j'ai peu de chances de passer à travers tous les aléas possibles, tous les problèmes physiques que je peux avoir. Mais j'ai qu'une seule façon de le savoir, c'est d'y aller, quoi. Donc, je m'étais engagé, j'en ai parlé à tout le monde. Donc, maintenant, maintenant j'y vais. Et quand je pars de Paris, donc c'était autour du 25 janvier, pour la course qui commençait le 3 février, je me dis, je me mets dans ma bulle, je me laisse pas déstabiliser par quoi que ce soit et je fais ce que j'ai à faire et on verra ce que ça donne.
J'imagine que t'es parti un peu plus tôt, c'était quoi, pour t'acclimater, pour tester un peu les choses?
Ouais, j'ai pris de la marche parce que j'ai essayé d'y aller un peu en slow travel, donc de pas prendre l'avion. Je voulais tester, voir ce que ça donnait.
Ouais.
Alors du coup, je suis allé à Hendaye en train.
Ouais.
Et ensuite, j'ai pris le bus pour traverser tout l'Espagne.
Ouais.
C'était une très mauvaise expérience. Et en fait, c'est une très mauvaise idée avant la course, dans la mesure où comme c'est très inconfortable. Mm. Donc moi, ça m'a cassé physiquement. C'était très fatigant. J'ai pas dormi. J'ai pris un bus de nuit, j'ai pas dormi en fait. Mm. Et en plus, j'ai cassé une partie de mon dérailleur. Enfin, il y a une vis qui est tombée de mon dérailleur, qui a tout coincé. Donc quand j'arrive à Tanger, au Maroc, peut-être, j'ai dit slow travel, mais je suis allé très vite. Je crois que j'ai mis 26 heures pour arriver à Tanger.
Ah ouais.
Mon vélo marche pas. Ma chaîne est emmêlée et mon dérailleur est un peu cassé. Mm. Donc j'ai la chance de découvrir un peu la générosité marocaine dès mon arrivée. Bon, un réparateur me fait ça pour me répare le truc pour 2 euros. Alors que vraiment, moi j'étais vraiment en galère. Je suis un peu soulagé. Je passe voir un ami à Casablanca, puis je vais à Marrakech. On doit être peut-être 8 jours avant la course. Mm. Et avec un autre Français sur place, on se dit, est-ce qu'on ferait pas le Toubkal? On a le temps, c'est une belle montagne, c'est un beau truc à faire. Bon, les conditions, on contacte un guide, c'est pas si cher, c'est sympa à faire, mais bon, les conditions météorologiques ne nous le permettent pas. Il neige beaucoup trop. Puis bon, on n'était pas spécialement prêt. Donc, je me dis, ok, j'ai quelques jours à tuer entre guillemets avant la course. J'ai jamais fait de bikepacking. Est-ce que ce serait pas l'occasion de découvrir le bikepacking dans les meilleures conditions possibles? Je me dis, quitte à faire un peu de bikepacking, autant. Alors, en fait, il faut savoir que déjà que l'Atlas Mountain Race, c'est une course qui commence. Le départ cette année était à 18h. Donc, c'est-à-dire que toute la première portion, on va la faire de nuit. Moi, ce qui me dérangeait, c'est qu'elle est vraiment magnifique, cette première portion. Ne rien voir, ça me dérangeait. Donc, je me suis dit, go faire cette première portion deux jours.
Ouais.
Pour en découvrir un peu tous les aspects. Et puis, pour me tester, pour être prêt le jour J. Donc, je pars un matin de Marrakech. Bon, je traîne un petit peu. J'imagine que c'est une étape, entre guillemets, jusqu'au premier tronçon qui fait donc 120 km. Je peux la faire, je me dis, en 10 heures. Donc, j'essaye de partir à 8 heures le matin, sachant qu'il fait nuit à 18h30. Je me dis, ça va le faire. Pas du tout. Évidemment, pas du tout. Déjà, je pars pas à 8 heures, je pars à 10 heures parce que j'ai traîné un petit déjeuner. Et en fait, je me retrouve complètement coincé la nuit dans la neige, dans le gros col à passer sur cette étape. Et donc, l'anecdote marrante sur ce premier tronçon, c'est que au bout de, je pars à 10 heures de Marrakech et vers 15 heures, dans une descente, je croise un cycliste. Il est marrant, attends, un cycliste à ce moment-là avec tout le matos de bikepacking et tout. Bon, je vais m'arrêter et puis je vais un peu échanger avec lui. Si ça se trouve, il connaît un petit peu la route et il va pouvoir m'indiquer et me donner bons conseils. Bon, je m'arrête. Et il se trouve que ce cycliste, c'est Steven Lejarric. Donc, c'est top. On échange un petit peu. Il me dit que ouais, sur le chemin, là, il y a pas mal de neige. Moi, j'avais prévu, je pensais qu'il me restait à peu près 5-6 heures. Il me dit, pas du tout, mec. Il te reste peut-être 8-9 heures minimum. Je dis, ah oh, oui, OK. Donc, il me donne quelques indications sur la route. Et surtout, ce qu'il fait, c'est qu'il me donne le contact de l'hôtel dans lequel je voulais dormir.
Ouais.
Je n'avais pas spécialement pensé à réserver avant. Effectivement, si j'arrive en pleine nuit là-bas, ce sera fermé. Donc, il me donne le contact et même, il l'appelle pour moi. Et le prévient de mon arrivée tardive. Et lui dit de me préparer un bon tagine chaud. Très bonne idée. Genre, je te remercie, Steven. C'est top. Et on échange un petit peu. Et puis voilà, je file. Et effectivement, ouais, je mets beaucoup plus de temps que prévu. En fait, il y avait un col à passer à 2600 mètres d'altitude. Et je me retrouve dans 40 cm de neige à pousser le vélo. Il est 23 heures. Il fait moins 10 degrés. Les bidons complètement gelés. Je crois que même j'atteindrai moins 15 heures en haut du pass. Donc, mais ça va. Comme je marche, en fait, je suis assez actif, donc j'ai pas trop froid.
Ouais.
Donc je m'en sors assez bien. Et puis je finis le tronçon par une longue descente, mais à pied. Je crois qu'il me restait 15 km. C'est 15 km que j'ai fait à pied à la fin. Donc assez éreintant. Puis j'arrive à minuit là-bas, bon tagine chaud, et tout va mieux.
Mais. Attends, ça doit pas être rassurant, cette histoire, parce que tu te dis, dans une semaine, je vais le faire la même chose, mais de nuit.
Ouais. Ouais. Finalement, du coup, je l'avais fait nuit un peu la fin. Donc, c'était finalement. Et ça m'a d'ailleurs donné beaucoup de repères pour la suite. Donc, c'était le top. C'est vrai que c'était pas l'expérience la plus responsable de ma part, de l'avoir fait une semaine avant de nuit dans ces conditions-là. Je recommande à personne de le faire. Mais. Bon, j'avais quand même encore une petite marge de sécurité. J'avais pas froid, physiquement j'étais bien. Mais effectivement, c'était pas le top.
Et rappelons que Steven Lejarric, c'était à peu près une période où il y avait le Gravelman Maroc hein, qui était ouais. organisé. Donc j'imagine qu'il était dans ses rocos, dans ses aventures, dans ses balades ouais. Pour tout ça. Et que la neige sur le Gravelman Maroc a aussi posé beaucoup de problèmes. Hein, que ça a vraiment été une grosse galère avec ça. Ouais, parce que tout le monde a l'image du Maroc où il fait chaud, il fait bon. Et là, j'en ai vu, ils étaient dans le désert, là, ils viennent de passer des vacances au soleil et tout au Maroc. Mais c'est vrai que l'Atlas, l'hiver, il y a de la neige et ça monte haut, ouais. comme tu dis et tout. Donc, c'est pas les conditions C'est pas une île tropicale, quoi. Je veux dire, c'est de la montagne, quoi. De la montagne avec de la neige, ouais, potentielle, etc.
C'est la montagne. Et d'ailleurs, la première chose que j'ai fait en rentrant à Marrakech, c'est me racheter des surchaussures et des gants de ski.
Ouais.
Pour la course. Parce qu'effectivement, c'est de la montagne. Et il ne faut surtout pas surestimer. Surtout que quand les conditions sont bonnes, ok, ça peut passer. Mais s'il commence à neiger, comme il s'est passé d'ailleurs dans le Gravelman, bah ouais, c'est la cata. Et il faut être prêt à ce genre de situation.
T'es revenu comment après, par curiosité, t'as repris la même route ou t'as fait une petite boucle?
Alors du coup, j'ai croisé Steven et on a échangé le soir même. Bon, je lui ai envoyé un petit message pour le rassurer de mon arrivée quand même. Et il m'a proposé de le rejoindre, faire une journée de VTT du côté d'Ourika, là où il a organisé le Gravelman.
Ouais.
Donc j'ai fait la transition le lendemain. On a dîné le soir ensemble et le surlendemain, on s'est fait donc une belle journée. Vraiment un régal, plein soleil pour le coup, et une belle trace dans la région d'Ourika. Donc ça, c'était vraiment top. Et encore très formateur, parce que du coup, ils m'ont emmené sur des passages un peu techniques sur lesquels je ne serais pas forcément allé par moi-même. Et il m'a donné plein de conseils. Donc ça, c'était vraiment très cool de sa part.
Ouais, ah, c'est cool d'avoir un prof, un guide comme Steven Yarrick.
Ouais. Ouais, ça va.
Avec toutes ses aventures, avec tout ce qu'il a vécu, etc. Ouais. C'est très formateur. C'est-à-dire que c'est un accélérateur énorme pour apprendre des choses et puis pour donner les bonnes astuces. De même que tu disais, la personne qui t'a prêté le matériel, qui te donne des conseils et qui donne les éléments pour préparer. C'est vrai que c'est des vrais accélérateurs d'avoir ce type de rencontre.
C'est très enrichissant, oui.
Donc après, finalement, tu arrives quand même... C'était quoi le départ? 3 février, hein, c'est ça? Départ 3 février,
18h, Marrakech. Ouais.
Et là, c'est le départ de la grande aventure.
C'est ça. Donc, on est 200 au départ, peut-être 220. Mmh. Et on part de Marrakech à 18h en plein soleil. Bon, il fait quand même 18 degrés, pas plus. Et la première heure est neutralisée. Donc, c'est vraiment super sympa. On est encadré par les policiers marocains, par les voitures un peu de leur gars. Et puis, on discute, quoi. On discute au coucher de soleil avec tout le monde. C'est bonne ambiance, c'est assez détendu. Tout le monde est prêt, quoi.
Ouais.
Et puis, au bout d'une heure, le soleil finalement est quasiment déjà tombé et on est un peu lâché dans la pampa, sur les pistes gravel, quoi. Et bon, et là, il s'est trouvé que sur la semaine, je suis arrivé donc une semaine avant au Maroc et j'ai peut-être mangé 2-3 trucs pas très frais, ce qui a fait que j'étais tombé malade. Bon, des petits troubles intestinaux finalement assez classiques et je m'étais soigné et je pensais que ça allait au moment de la course. En fait, ça allait pas. J'avais un mal de ventre terrible au bout de 2-3 heures là sur le vélo, sauf que tous mes médocs, grosse erreur, en fait je les avais terminés, j'en avais pas racheté.
D'accord.
Donc ça c'était cata, ça. Du coup, le premier tronçon, heureusement que je le connaissais, parce que du coup, il était vraiment très dur psychologiquement, dans la mesure où j'avais les jambes complètement coupées un peu par la maladie ou par mes problèmes intestinaux. Puis j'ai eu besoin de m'arrêter un paquet de fois. Et heureusement que je connaissais des bons spots. Notamment, j'avais eu l'occasion de rencontrer un berbère que j'ai pu recroiser à ce moment-là et qui m'a bien, bien sauvé, disons. Quand j'arrive à nouveau au premier checkpoint, donc au bout de 120 km, j'étais déjà bien soulagé et potentiellement c'était déjà j'étais ok pour abandonner à ce moment là quoi. Je me suis dit bon, je peux rien faire, je suis dans un état cata. C'est pas dingue mais c'est peut-être le meilleur moment pour m'arrêter. Puis finalement j'arrive là-bas vers 5h du matin.
Ouais.
Je prends quand même un tagine, je vais aux toilettes, je fais une petite sieste sans arriver à dormir. Mais voilà, et après un ou deux coca, finalement, j'ai un peu moins mal. Je me dis, ok, je peux essayer de repartir. Je peux essayer de repartir et puis je repars. Je roule toute la journée. Et en fait, de toute la journée, je trouve rien à manger. Et je pense que ça m'a fait du bien.
Ouais.
Je mange pas de la journée, si ce n'est... Enfin, je mange quand même, je m'alimente de petites barres toutes les heures, mais je mange pas de gros repas, rien de très consistant. Juste pour alimenter un petit peu mes jambes, quoi. Et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Ce qui fait que, au bout de, Je dois arriver, je dois me coucher à peu près vers 22h. Et ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. J'ai moins mal à l'estomac. J'ai moins de problèmes. Et bon, il est un peu vide, mais ça va. Et je pense que ça m'a bien sauvé pour la suite.
Et tu me dis, je vais me coucher, mais en fait, tu
Ouais.
dors où?
Alors, en l'occurrence, là, j'ai eu de la chance. Donc, en gros, sur la course, on a 10 fichiers GPS avec 10 sections
Ouais.
qui vont de grosse ville en grosse ville, entre guillemets.
D'accord.
Donc, la section, on peut faire entre 100 et 170 km. Et on sait plus ou moins dans ces grosses villes, il y a potentiellement un hôtel ou un petit endroit où dormir.
D'accord.
Donc moi j'arrive vers 18h à la fin de la deuxième section de la journée, enfin depuis le début de la course. Donc là j'ai la possibilité de dormir, mais il est 18h et je n'étais pas si fatigué. Donc je me dis assez frustrant. Sauf qu'ensuite il y avait une section de 100 km à faire sans aucune possibilité de ravitaillement. Avec une montée assez pentue et apparemment très difficile de l'expérience que je pouvais avoir enfin des retours d'expérience des autres coureurs qui l'avaient peut-être déjà faite. Je me dis, quoi qu'il arrive, j'arriverai pas à la troisième ville. Mais je me dis, il est 18h, je vais pas m'arrêter là. Et en fait, en parlant avec d'autres coureurs, on était tous à une station service et on discutait un peu de ce que les uns et les autres voulaient faire. Et il y en a un qui dit, j'ai déjà fait cette course, il y a des maisons abandonnées à la moitié de la section, avant la grosse montée.
D'accord.
Donc les gars, le rêve, c'est de trouver ces maisons. On sait pas où elles sont, mais on a vraiment, enfin, c'est juste une information qu'on peut avoir comme ça, mais on sait qu'il y a potentiellement des maisons dans lesquelles on peut dormir.
D'accord.
Donc je me dis, bon, bah go, hein. De toute façon, j'ai du matériel pour dormir dehors. Enfin,
Ouais.
c'est pas le top du top non plus. J'étais peut-être un peu léger sur la température de mon duvet. Il était extrême zéro, mais c'est pas suffisant. Mais je me dis, allez, go. Bon, je me lance. L'occurrence, il y avait aussi un autre problème, c'est qu'il y avait une petite rivière à traverser. Et on n'avait aucune idée de la hauteur de l'eau dans la rivière. Ce qui peut être assez contraignant dans la mesure où traverser une rivière, ça veut dire se tremper. Et donc, devoir sécher, mais devoir bien sécher et pas attraper froid.
Ouais.
Et en fait, moi, j'avais peur de faire ça de nuit, complètement de nuit, sans rien y voir et avec un froid déjà présent. Donc c'était aussi pour ça que je me suis lancé un peu avant la nuit, pour être sûr de pouvoir bien voir et pouvoir me sécher. Et donc je pense que c'était un bon choix là-dessus. Donc je pars, et effectivement, vers 22h, après 4 heures sur cette section, je trouve des maisons, et en l'occurrence, elles ne sont pas abandonnées, il y a un type qui est dehors, un berbère, et j'étais avec un autre gars, il nous propose de nous accueillir tout de suite. Donc en l'occurrence, on n'a pas le droit de demander l'hospitalité
Ouais.
sur cette course-là, on a le droit de la recevoir. Donc là, nous, ça faisait 36 heures qu'on n'avait pas dormi. C'était le bienvenu. Et effectivement, ouais, cette nuit, j'ai fait une grosse, grosse nuit. C'est-à-dire j'ai dû me coucher vers 23 heures et réveil, je crois, à 6 heures. Et j'ai snoozé en plus.
Ouais,
Donc j'ai dû dormir vraiment 7h30. Ça m'a fait beaucoup de bien.
t'as fait une grosse nuit quand même.
Ouais, petit bébé, ouais. Ouais,
Ouais.
j'étais content.
Non, parce qu'on dit sur les gars, l'aventure et tout, ils dorment pas beaucoup. Bon, après, faut le dire, hein, c'est que c'est une aventure sur 8 jours. Donc, tu as 8 jours pour
Ouais.
boucler le
Ouais.
parcours dans son intégralité. Donc, puis t'es pas dans l'objectif course de gagner des minutes par-ci, des minutes par-là. Parce que j'avais fait un épisode avec Steven Eric sur Kilomètre 42 où il expliquait que bah, quand il touche 3 fois le gravier, c'est que c'est le moment de dormir 5 minutes. Mais c'est la configuration, c'est Steven Yarick aussi. C'est pas tout à fait c'est aussi sa manière à lui de rouler, d'aller sur les courses, d'aller plus vite possible, etc. Et tout le monde n'est pas obligé de faire ça. C'est pour ça que je le dis aussi, parce que si certains vont écouter les épisodes avec le Steven Yarick, il y en a deux, il y en a sur Sport Nutrition et sur Kilomètre 42. C'est vrai que quand il donne cette anecdote-là, on se dit waouh, ça fait peur. Mais là, ce qui montre aussi que tu peux le vivre d'une manière totalement différente aussi.
Physiquement, de toute façon, j'aurais pas pu dormir que 5 minutes. Hein.
Ouais.
Je pense que le corps avait besoin de ce sommeil. Et en l'occurrence, j'étais avec un coureur assez expérimenté à ce moment-là, qui a déjà fini la Silk Road Mountain Race. Si lui aussi a snoozé en même temps que moi, c'est qu'il y avait une raison. C'est que c'était le moment de. On n'allait pas gagner une heure en avançant le réveil, quoi.
Donc là, t'es quoi? C'est le deuxième jour?
Ouais, là, En fait, c'est difficile de compter en termes de jours, parce que comme on a commencé un soir. Mais disons que c'est la fin de la deuxième nuit.
Ouais. Tu es dans quel état d'esprit là? Tu te dis, bon, allez, j'ai bien dormi, ça repart à fond, etc. Ou,
Alors, effectivement, ce qui s'est passé en plus de ça, c'est que un petit peu avant cette histoire de station-service et de rivière, j'ai eu un petit problème technique. Ouais. J'ai explosé mon pneu tubeless.
Aïe.
Je l'ai déchiré sur le flanc sur 5 cm, c'est impossible à réparer. Ou peut-être, mais bon, pas en mes capacités. Et donc, j'ai dû mettre une première chambre à air.
Ouais.
Les chambres à air, j'en avais deux.
Ouais.
J'ai aussi quelques rustines. Mais bon, mettre des rustines, ça va le jour si tu es accoudé à un restaurant et que tu as le temps et que tu peux mettre ta rustine. Mais si tu es la nuit, qui fait moins 10 degrés, que tu es claqué et que en plus tu as tout le liquide tubeless sur ta chambre à air, mettre une rustine, c'est pas forcément marrant. Donc, il ne me restait plus qu'une chambre à air. Et puis, et justement, après la rivière, avant d'arriver chez des barbères, j'ai explosé ma première chambre à air. Y a un trou. En fait, j'avais surgonflé pour éviter les crevaisons. Et donc, en surgonflant, il y a un risque, c'est d'exploser.
Ouais.
Et donc, j'ai explosé un moment sur un trou. Je vois le trou, j'essaye de le sauter. Trop tard, je prends le trou. Et j'explose ma chambre à air. Donc, je mets ma dernière chambre à air. Et là, je me dis, mais je ne peux plus crever. Si je crève, surtout à ce moment-là, c'est vraiment cata.
Ouais.
Faut pas que ça m'arrive. Donc je me dis, bon, bah, de toute façon, je peux rien y faire. Je roule. Et puis, si à un moment, je peux trouver des chambres à air, bah, j'en achèterai, quoi. Donc là, je repars un peu pour le deuxième jour le lendemain. Si on peut appeler ça le deuxième jour, non. Ouais, le deuxième jour. Le deuxième vrai jour. Et mon seul objectif de la journée, c'est de trouver des chambres à air. En sachant qu'il y a, sur la journée, je passerai dans deux villages, quoi.
Ouais.
Donc, je roule en croisant les doigts, quoi. Et je fais super attention à tout. Mes trajectoires, autant au début, je faisais un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que j'allais un peu toujours tout droit. J'ai les amortisseurs à l'avant, donc j'étais sur un VTT. Je me dis, bon, ça passe. Là, toutes les trajectoires, je faisais méga gaffe. Un gros caillou, je l'évitais. Un trou, je l'évitais. Et ça m'a peut-être un peu sauvé, ouais, de faire attention comme ça.
Ouais, c'est-à-dire ouais. Que c'est une contrainte qui, finalement... t'oblige à devenir plus prudent, à faire plus attention, ouais. À te protéger le vélo, des crevaisons, mais aussi de protéger toi finalement aussi certains aspects, parce que tu as limité aussi les chocs, les impacts, plein de choses finalement.
Ouais, c'est vrai. C'était pas si négatif que ça sur ce point-là, mais psychologiquement c'était un peu dur. C'est-à-dire à n'importe quel moment, et ça je commanderais tout de suite, ma course peut s'arrêter.
Ouais.
Donc pas évident. Mais bon, j'ai roulé. Premier village, évidemment, pas de chambre à air.
Ce serait trop facile.
Ouais, ce serait trop facile.
C'est pas l'aventure.
Ouais. Puis après, il y avait un deuxième petit village où, évidemment, non plus, il n'y en avait pas. Sauf qu'à ce moment-là, il y a 18h. Et je sais que dans le village suivant, j'ai des chances d'en trouver. En l'occurrence, j'avais vu vite fait sur Instagram que Steven Oyarik avait eu un problème assez similaire et avait pu trouver des chambres à air dans ce village. Donc je me dis, bon, s'il en a trouvé, c'est que je peux en trouver. Il est 18h, parce que j'ai 75 km de désert à traverser. Et je me dis, bon, ça va me faire, c'est très difficile d'associer un temps à ces distances kilométriques. Ouais. Tu ne sais jamais combien de temps tu vas mettre. Il y a des kilomètres qui sont très, 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 très longs et d'autres très rapides. En fonction de la pente, en fonction du revêtement. Donc je me dis, bon, de toute façon, je me lance. Enfin, j'avais la possibilité de soit de m'arrêter, totalement là où j'étais. J'étais pas loin d'une grosse route où je pouvais aller à Ouarzazate qui était à peut-être une heure de taxi. Donc j'aurais pu prendre un taxi, j'avais le droit de le faire. Prendre un taxi, aller à Ouarzazate, acheter des chambres à air, y passer la nuit, revenir le lendemain au même endroit où j'étais et repartir.
D'accord.
Ça c'était une possibilité. C'est très chronophage. C'est assez dur psychologiquement à faire, je pense. Et j'ai pas voulu le tenter. Je me suis dit, bon, ça va me coûter super cher. J'ai pas spécialement envie de dépenser de l'argent là-dedans. Autant tenter le tout pour le tout. Mais la vraie décision rationnelle, ça aurait été de faire ça.
Ouais.
Je peux pas regretter de pas l'avoir fait, hein. Mais c'est vrai que si j'avais crevé sur cette portion de 75 km au milieu, j'avais potentiellement 30 bornes à marcher, quoi. Ou à rouler sur la jante.
Ouais.
Parce que c'était la nuit et je pense que j'aurais été incapable de réparer une crevaison en ce moment-là. Coup de chance, ça passe. Et j'arrive à Taznak à minuit où on me dit de toute façon les chambres à air là tous les magasins sont fermés mais essaye demain matin à 10h, tu pourras peut-être en acheter. Une bonne nuit en perspective. Encore. Et ouais, bon, j'ai très mal dormi cette nuit-là, mais le lendemain, j'ai pu, à 10 heures, effectivement, en faisant tous les magasins du bled, trouver deux chambres arrière. Qui d'ailleurs n'étaient pas à la bonne taille.
Ouais.
En fait, moi, je suis en 29 pouces, et là-bas, ils n'ont pas de 29 pouces. Donc, 29 pouces, c'est aussi du 700. Et donc, j'avais trouvé des chambres arrière en 700 par 32, je crois. Alors que je suis en 29 pouces avec une largeur, je crois, de 2,25. Ce qui équivaut peut-être à du 50 en gravel ou en route, donc du 700 par 50, et là 700 par 32. Bon, je me dis c'est mieux que rien.
Ouais.
ça veut dire que je pourrais mettre la chambre à air, ce sera très fin, mais.
Mais tu peux la mettre.
Normalement, il faudra bien.
Ouais. C'est-à-dire que tu peux déjà la mettre, même si c'est pas la meilleure chambre,
ouais.
Déjà tu sais que tu peux mettre une chambre à air. Quoi.
Ouais, et ça, déjà psychologiquement, ça va beaucoup mieux.
Ouais, j'imagine.
Bon, il se trouve aussi qu'à ce moment-là, sur ce petit désert, j'ai cassé mon téléphone. c'est-à-dire que je l'avais mis dans une pochette pour pouvoir regarder mes messages. En fait, j'avais un groupe WhatsApp avec plein d'amis sur lequel j'échangeais uniquement sur cette course. Et donc, je leur envoyais des petits vocaux, des petites photos, des trucs comme ça. Et je pouvais lire un message. Et au milieu de la nuit, à un moment, je me rends compte que je peux rien faire. J'arrive plus. Le taxi ne fonctionne plus. Donc, je me dis, c'est l'écran qui s'est déconnecté ou quoi. Et je me dis, bon, je vais essayer de le faire réparer en l'occurrence dans le prochain village. C'était Taznacht, là où j'ai trouvé les chambres arrière. Mais ça, j'ai pas réussi. C'était pas en fait l'écran tactile, c'était la carte mère qui avait un problème. Et donc, j'ai fait toute la course sans ce téléphone. J'ai racheté là-bas un petit T9. Juste pour pouvoir contacter l'organisation s'il y avait un problème ou ma famille.
Okay.
Mais c'est tout.
Ok. Et donc, là, c'est vraiment de l'aventure parce que tu as le téléphone, tu n'as pas les bonnes chambres, tu es dans le désert, tu as le téléphone en rade, donc tu as pas de. Tu as ton GPS pour te guider, grosso modo. Mais tu peux même pas te dire si jamais je tombe en rade de GPS, j'ai mon téléphone qui prend le relais parce que là, c'est mort.
Ouais.
Il te reste quoi, la moitié de l'aventure à faire?
Un peu plus, ouais. Et finalement, en fait, c'est peut-être ce qui m'a mis dedans. C'est ce qui m'a mis un peu dans ma bulle.
Ouais.
Je suis rentré dans une certaine routine tous les jours. Voilà, je savais que j'avais avancé. Il fallait que je prenne quelques informations un peu à droite à gauche pour savoir où étaient les points de ravitaillement et potentiellement les hôtels. Et puis j'avançais. J'avais plus qu'un seul objectif, c'était d'avancer et manger et dormir. Et c'est là où je pense que je suis vraiment rentré dedans et qui m'a permis de vraiment aussi autant apprécier l'expérience. C'est d'être dans ma bulle, de faire ce que j'avais à faire. Et c'était dur, hein, c'était. Mais voilà, je le partageais avec moi-même et c'était très bien.
Finalement, ta course, tu l'as finie en combien de... T'es arrivé quel jour ?
Je suis arrivé, donc on est parti le vendredi à 18h, 3 février. Moi, je suis arrivé le vendredi suivant vers midi. Donc, j'ai mis 6 jours et 18 heures avec effectivement une contrainte horaire de 8 jours, je crois, et 6 heures pour finir la course.
Oui,
j'avais un peu de marge.
Ouais, t'avais jusqu'au samedi en fait. Donc finalement, ouais. T'avais une bonne journée de marge quand même.
J'avais une grosse journée. Et en fait, c'est une marge que j'avais donc, qui était, disons, un peu physique. Parce que malgré tout, j'ai quand même un physique un peu de cycliste, même un bon physique. Et c'est un peu ce qui m'a donné la marge de façon générale. J'étais jamais vraiment fatigué musculairement ou physiquement. Et ça m'a permis de me dire, bah, tiens, je peux continuer un peu plus longtemps ce soir ou des choses comme ça. Par rapport à d'autres, et c'était ma marge, quoi.
Ouais. Précisons un truc aussi, c'est que Steven Le Yarrick, il a couru aussi l'Atlas Mountain Race. Ouais. Alors tu l'as pas vu sur la course.
Au départ, quand c'était neutralisé.
Voilà. Mais il faut le dire aussi parce que si vous allez voir sur son compte Instagram, il y a les vidéos, il y a tous les péripéties. C'était aussi parce que on dit oui, il fait des trucs, etc. à droite à gauche. Et lui aussi, il a eu beaucoup de péripéties pour arriver finalement à y arriver. Alors lui, il arrive. Ils sont plusieurs arrivés à la quatrième place en fait d'arriver ensemble. Mais ce que je veux dire, c'est que même pour quelqu'un qui arrive comme ça dans les premiers, qui a l'habitude, qui a traversé des déserts, qui a fait le Népal, qui a fait des choses comme ça avec en vélo, ça reste, c'est une course qui est pleine de péripéties, qui est compliquée, qui est difficile, sur lequel il a eu des soucis aussi rencontrés. c'était pas si simple que ça. Donc, ce qui montre aussi, enfin, la difficulté et ta performance, parce que tu l'as dit, hein, il y a la moitié des gens au départ qui finissent pas, qui n'arrivent pas, pour souvent des problèmes techniques en plus, hein, j'imagine.
Il y a pas mal de contraintes, il y a un peu de tout. Moi, j'ai vu le premier jour, j'ai vu un mec se casser la clavicule devant moi. Bon, ça, c'est un peu moins marrant. Mmh. Mais j'ai vu une autre personne abandonner parce qu'il avait cassé sa roue. Et sinon, je crois qu'il y en a plusieurs quand même qui ont abandonné sur les contraintes horaires,
ouais.
Qui étaient assez serrées. Et en fait, une des problématiques, c'est qu'on avait à peu près on avait 13 heures de nuit par jour, entre guillemets. Et comme la nuit, il faisait vraiment très froid, jusqu'à moins 10 degrés, pour terminer dans les barrières horaires, il fallait absolument rouler 3, 4, 5 heures la nuit.
Ouais.
Et c'était très contraignant. Et donc, ça a été un des facteurs de pas mal de, entre guillemets, hors délai.
D'accord. Il faut le dire, hein, aussi, pour ceux qui ne savent pas, sur ces points de course, c'est-à-dire que tu as des checkpoints à passer, tu as des points, ouais. Hein, tu dois passer les points. Tu en as combien de points à passer ?
Il y en a trois.
Trois.
Ouais. Et au-delà d'être des points à passer, c'est surtout pas des bases vie, mais c'est des bons points de repos. Tu sais que tu peux arriver là-bas à n'importe quelle heure. Il y aura toujours quelqu'un pour t'accueillir et pour t'alimenter ou pour te faire dormir un peu. Donc ça, c'est assez important quand même.
Tu en es revenu de cette aventure avec des heures et des heures de vidéo.
Ouais.
Et j'ai vu sur un de tes posts, tu as dit que tu as fait 100 heures de vélo et 100 heures de montage de vidéo. J'imagine effectivement que ta GoPro a été chargée à bloc là, hein, de ce que tu as ramené.
Alors effectivement, je dis 100 heures de montage, c'est forcément un petit peu exagéré, mais pas tant que ça, parce que ensuite, après la course, j'ai passé une dizaine de journées à Essaouira, où j'avais pas d'ordinateur et j'avais pas non plus énormément de choses à faire.
Ouais.
Et donc, j'ai commencé à une sorte de pré-montage de ce que je voulais faire, en regardant, en fait, en dérochant tous les fichiers médias, et avec un stylo et un bon paquet de feuilles, j'ai pu trier tout ça, un peu taguer, entre guillemets, toutes les vidéos, mais à la main.
Ouais.
Décrire ce qu'il y avait dedans, etc. Et sélectionner des passages qui m'intéressaient pour ensuite préparer un futur montage.
D'accord. Et donc, le résultat de ce montage, on va pouvoir le voir, c'est quand, la semaine prochaine ?
C'est ça. Je fais une projection dans un cinéma à Paris, le 2 mai prochain. Un cinéma qui s'appelle Le Brady, à 21h30. Et donc, c'est au-delà d'être une projection, c'est un petit show. C'est l'occasion de reparler un peu de revenir sur ce que je t'ai expliqué sur la préparation, en détaillant un petit peu avec des images, avec des vidéos, diffuser le reportage, répondre aux questions et parler d'une petite aventure bonus à la fin au Maroc.
Voilà. Avant de basculer sur ce que tu vas faire ensuite, c'est quoi les conseils que tu donnerais pour quelqu'un qui veut faire de l'ultra-endurance comme ça ? C'est quoi finalement sur quoi il faut se préparer ? Le truc, parce qu'il y a plein de choses, mais le truc essentiel pour toi ?
Il faut se préparer à fond. Il faut se renseigner au maximum. J'ai écouté pas mal de podcasts, notamment ceux de Spotzel, pour l'ultra-endurance. J'ai découvert à cette époque aussi ton parcours. Je pense que effectivement c'est bien de construire sa préparation. C'est pas comme une course ou de vélo qu'on peut faire tous les dimanches. C'est vraiment un objectif à part. Donc se renseigner au maximum sur le matériel. Après il y a des choses qui vont venir avec l'expérience. Donc il faut effectivement commencer par un objectif aussi ambitieux. C'est pas forcément idéal. C'est pas forcément ce que je recommande. Il vaut mieux apprendre. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, un petit peu en off, sur le côté, apprendre à rouler sous la pluie, par exemple.
Ouais.
Faire une journée sous la pluie, bon, j'ai eu la chance de ne pas l'avoir au Maroc. Je pense que j'en aurais pas forcément été capable à l'époque. Donc, il y a des choses qu'il faut traverser, des épreuves un peu dures à traverser, et dans des conditions de sécurité maximales, pour ensuite en course, quand. Tout n'est pas si évident. Avoir une marge de sécurité qui permet au moins d'être en sécurité, du coup, et si possible de finir.
Ouais. Tes aventures ne sont pas terminées. Tu en as d'autres en tête.
Yes. Alors, effectivement, ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'à Essaouira, où je suis resté quelques jours pour me reposer, pour profiter. C'est une très belle ville et la gastronomie m'a énormément plu.
Ouais.
Et quelques jours après la course, On était allé avec pas mal de monde qui était resté en fait quelques jours après pour profiter aussi. Et on était allé dans un bar et à ce moment-là j'ai croisé Nelson Trees, l'organisateur donc de la Test Mountain Race. Et autour de quelques verres, ça m'a laissé imaginer un nouveau défi.
Ouais.
Donc Nelson organise aussi la Silk Road Mountain Race. Je crois que tu as déjà parlé avec Nathalie Bayon dans ce podcast.
Bah, Nathalie Bayon, en tout cas, je sais qu'elle va le faire. On n'en avait pas parlé, mais c'est vrai que pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est que c'est une course au Kazakhstan, c'est ça ?
Kyrgyzstan,
enfin, pardon. Kyrgyzstan.
C'est pas exclusif.
Voilà, donc il y a une belle trotte. J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps d'une personne qui était allée au départ en vélo, qui a mis plusieurs mois pour y aller, donc c'est une sacrée aventure aussi. Voilà, donc j'ai vu Nathalie Bayon, elle en parlait, elle prépare, etc. Parce qu'elle a pris un VTT spécialement pour ça, hein, en fait, parce que ça ne se fait pas trop. Enfin, en gravel, c'est compliqué. Donc voilà, donc ça fait un gros gros événement qui est vraiment c'est fou, c'est un peu j'ai envie de dire c'est vraiment l'événement mythique en fait, hein.
Ouais, je suis d'accord là-dessus. Dans l'imaginaire collectif en tout cas, et avant de connaître la TAS, je connaissais la Silk Road parce que c'est un peu la course un peu de folie d'aventure. C'est un peu la plus grande course de bikepacking. Tout le monde, enfin un bikepacker d'ultra. S'il a fait cette course, il a accompli quoi.
Ouais. Donc tu discutes avec Nelson qui organise ça. Il dit quoi? Tu dis ouais, mais c'est bon, tu m'acceptes si je viens. Enfin.
Ouais, un peu. Je lui dis mais du coup, tu organises cette course là et en fait, il organisait aussi une nouvelle course donc en Grèce au mois de mai, mi-mai, qui s'appelle la Hellenic Mountain Race. Et là, ce sera la première édition. Et moi, je sais plus ou moins qu'à ce moment-là, je serai disponible. Donc déjà, je lui dis, alors, cette course-là, elle a l'air géniale. C'est une première édition. C'est super cool, les premières éditions. Bon, est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire, effectivement? Parce que j'avais loupé un peu la deadline d'inscription. Ouais. Et il me dit, bah, écoute, dans une semaine, j'annonce que je rouvre les inscriptions. Si tu veux y aller, vas-y. Donc je lui dis, bah, vas-y, go. Là, c'est 950 km de pur VTT. Avec 30 000 mètres de dénivelé positif dans les forêts du nord de la Grèce. Je me dis, bon, celle-ci, en tout cas, je suis dispo, je peux y aller. Donc, quitte à en faire deux, autant faire les trois. Du coup, la troisième, c'est la Silk Road.
Ouais.
Donc, l'objectif là, à très court terme, donc, c'est là de partir, je pars en Grèce dans deux semaines pour aller faire cette course.
Ouais.
Et si je la termine, l'idée, c'est d'aller au Kyrgyzstan ensuite faire la Silk Road.
Ouais, comme ça, t'auras fait le trio magique.
C'est ça.
N'empêche que, enfin, il y a quand même une question que vont se poser certains, c'est que ça a des coûts tout ça, parce que bon, l'inscription sur l'Hellenic, je vois, c'est 350 livres, hein. Sur la Silk Road, on en a 450. C'était aussi à peu près le prix du Maroc, hein, je crois, j'imagine à peu près. Comment tu... Les gens, là, ils sont en train de se dire, bon, il a 25 ans, il a acheté son vélo avec un prêt étudiant, mais il vit de quoi maintenant?
Alors, effectivement, c'est pas forcément évident. Donc, la Hellenic, ça collait aussi avec la fin de mes économies.
Ouais.
Donc, je suis capable de me financer jusqu'à la fin de la Hellenic. Et l'idée, ensuite, bah, c'est de travailler un peu, en l'occurrence, pour pouvoir financer l'étape d'après. Donc en ce moment, je recherche des missions de freelance en stratégie, marketing, dans le domaine de l'ultra-distance, pour pouvoir financer ce voyage au Kyrgyzstan. Où effectivement, les coûts sont beaucoup plus importants, notamment au niveau du transport. Et puis l'idée, c'est quand même de rester un petit peu sur place aussi, quitte à faire un voyage. C'est pas que pour y aller. Tu vois, au Maroc, je suis resté 6 semaines.
Ouais.
Grèce, je pense idéalement peut-être rentrer à vélo depuis la Grèce.
Ouais. Ouais.
Ça va me prendre encore un peu de temps.
Ouais.
Bah, c'est et donc pareil, hein. Au Kyrgyzstan, rester un petit peu.
C'est pas très loin. C'est je sais pas combien il y a.
L'idée, c'est de traverser en fait jusqu'à Bari, de Grèce à l'Italie et de remonter l'Italie.
Ouais. D'accord.
Je vais prendre un petit train à la fin.
Ouais, je vois un peu le parcours et tout, et ça ressemble aussi à ce que fait Nathalie Bayon, parce qu'on avait parlé de Nathalie Bayon qui revenait de certaines courses comme ça justement en vélo. Donc l'appel est lancé, hein, pour ceux qui connaissent, etc. Mais c'est là où je dis aussi nos projets se rejoignent un peu, c'est dans cet esprit-là de dire comment vivre l'aventure, comment vivre du sport, comment travailler dans ce domaine-là, comment financer ça, comment avoir cet équilibre-là et tout. Bah, c'est juste que bah, on le fait avec toi, tu as 25 ans, moi j'en ai 47. Ouais. On n'a pas les mêmes parcours, on n'a pas les mêmes structures familiales, etc. non plus. Mais je trouve que c'est chouette, en fait, de se dire tiens, je me lance là-dedans, je veux vivre ça à fond, etc. Et puis ça me rappelle aussi mon neveu qui est parti faire le tour du monde en plusieurs petits morceaux, mais qui lui le fait en pied, qui fait de l'escalade, de la montagne, etc., à droite à gauche. Et on sent aussi qu'il y a des aspirations, en plus dans votre génération. Ces aspirations à partir à droite à gauche, partir à l'aventure, de pas se retrouver enfermé dans un bureau. Et ça, moi, je peux que l'encourager. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais t'inviter pour justement parler aussi de ça, dire, bah voilà, il y a le film aussi qui sort, il y a aussi ce que tu fais à côté, il y a aussi, bah, de montrer que finalement, ces aventures-là, bah, je dis pas que c'est à la portée de tout le monde, mais que il y a de l'entraînement, toi, t'as ton passé de cycliste, etc., mais que, c'est pas réservé non plus qu'à des grands aventuriers, enfin, etc. Même s'il faut, c'est des courses compliquées, etc. Mais que ça peut être des objectifs pour certaines personnes qui peuvent, ça peut le faire rêver en fait. Alors après, la Silk Road, c'est un truc particulier, mais l'hellénique qui semble plus à portée, et encore que, il y a un piège.
Et hein, encore que, je crois qu'il y a 20 km de plat, voilà, sur 950 km. Donc il faut.
Il y a 29 000 mètres de dénivelé. Voilà. Donc, c'est pas la partie. Bon, la Grèce, il n'y a rien de plat de toute façon en Grèce. Mais là, quand on voit les photos, vraiment, c'est un truc de dingue. Je me dis en plus, sur le plan technique et tout, de voir des descentes qui sont super raides. Combien il pesait ton vélo là, au Maroc?
Alors, nu, il pesait 10 kilos.
Ouais.
Et avec le matos, je n'ai pas pesé, mais j'étais à 16, 17, peut-être 18.
Ouais. Et donc, dans les descentes et tout, techniquement, ça doit être quand même pas si simple que ça, quoi.
En plus de pas être simple, ça, je t'en ai pas parlé, mais j'ai eu des problèmes de paralysie des mains.
Ouais.
C'est-à-dire que les répétitions des chocs, le fait de devoir freiner en permanence, ça m'a. Et puis, je pense que j'avais aussi l'irrigation des mains parfois un peu coupée par le guidon.
Ouais.
Ça m'a totalement paralysé les mains. Et à la fin, je n'étais plus capable de fermer une fermeture éclair, d'écrire même. Ouais. Ça a duré un bon moment. Là, c'est revenu, tu vois, au bout de 2 mois et demi. Mais c'est un handicap en fait, qui est assez commun et qui peut s'éviter. Et ça, je ne le savais pas forcément à l'époque. Mais on en avait parlé, mais je n'ai pas spécialement fait attention. Donc ouais, si je devais recommander quelque chose de supplémentaire pour quelqu'un qui fait du off-road comme ça, c'est d'avoir des poignées spéciales. Je crois que ça s'appelle des Spear Grip. C'est des poignées ergonomiques. Qui permettent de ne pas avoir ce genre de problème, ou en tout cas de les diminuer.
Ouais. Et c'est un problème dont on avait parlé avec, dans l'épisode sur les postures, où il avait cité le truc, où il mettait aussi des guidelines complémentaires sur des petites distances, sur des choses comme ça, pour justement en disant que ça faisait partie des problèmes récurrents. Mais c'est vrai que sur une semaine complète de vélo comme ça, avec la distance, avec le temps passé sur la selle, et sur les mains, donc sur le guidon, ça se comprend, c'est largement compréhensible. Hein. C'est aussi là où l'apprentissage, hein, finalement, de dire la prochaine fois, le vélo, il faut modifier telle ou telle chose. Et c'est comme ça que je vais pouvoir passer d'étape en étape. En tout cas, écoute, je te souhaite de belles aventures. Hein, et je te souhaite d'arriver à vivre de tes aventures comme tu as envie. Donc là, on a compris. Toi, l'épisode, il va être diffusé. On est le 20, on enregistre le 24, mais c'est diffusé le 27. Donc, ça veut dire que dans 2 semaines, tu es en Grèce, quoi.
Ouais, dans 8 jours, je projette donc au cinéma. Et puis ensuite, j'ai quasiment tout prêt là pour la Grèce. Ça me demande un peu plus de matériel, notamment par exemple, tu vois, j'ai peur de la pluie, des choses comme ça.
Ouais.
Donc je finis de préparer tout ça. Je change mes pneus aussi. Et puis je file en Grèce le 10 mai. Là, j'arrive vraiment juste avant, pour un départ le 13. Et ensuite, Et tout ça, effectivement, vous pouvez le suivre. Et tu peux le suivre aussi.
Ouais.
Sur Instagram, je publie pas mal sur. Enfin, je publie un peu sur Ben Pepper, un compte que j'ai créé pour le vélo à l'époque de l'étape du Tour, où j'avais levé quelques fonds pour une association.
Ouais.
Ben Pepper sur Instagram et Strava. Et je lance aussi une sorte de podcast un peu personnel et un peu intimiste. Mais autour d'un concept, celui de réaliser en fait des sortes de mini live pendant la course.
Ouais.
Enfin, à mes amis, j'envoie beaucoup de vocaux.
Ouais.
Et à la fin de la course, là, typiquement en Grèce, je compilerai tout ça et j'en ferai 30-40 minutes d'enregistrement qui structurés idéalement, qui permettront de retracer cette course et cette aventure. Et l'idée, c'est de développer un petit peu ce format live.
Ouais.
Sur à la fois les expériences que j'ai envie de vivre, mais aussi sur l'expérience d'autres personnes. Tu as par exemple Mathieu Blanchard, je crois qu'il fait ça sur son podcast Dans mon bain, il publie ses récits de course. Mmh. Il y a un peu ça aussi sur le podcast Puzzle. J'ai envie de développer vraiment cette verticale d'aventure live. Mmh. Là, j'ai commencé à le faire très vite fait sur cette aventure au Maroc, mais a posteriori.
Ouais.
Donc, j'ai sorti pour mes amis ce récit de course qui dure 30 minutes, mais enregistré 2 mois après. Et je trouve que je perds un petit peu le momentum, un peu l'attention, et puis en même temps, les gens, entre guillemets, se désintéressent un petit peu. Donc, l'idée maintenant, ça va être de publier ça à chaque fin d'aventure, le lendemain, avoir un truc prêt. C'est l'avantage de l'audio, je pense, sur le montage.
Et effectivement, moi, je l'ai fait sur mon 24 heures où j'avais enregistré pendant mon 24 heures en courant. Ouais, sur 24 heures, j'ai 2 heures d'enregistrement, comme j'avais raconté un petit peu tous les trucs. Puis bon, j'avais fait une belle rencontre à la fin aussi. Et, et c'est vrai que j'ai pu publier le surlendemain. Je crois que la version pour privé était déjà en ligne. Et puis 3 jours après, effectivement, c'était publié parce que ça va beaucoup plus vite. Parce qu'en plus, on peut monter plus facilement sur des mobiles, etc. Donc, je trouve que c'est une très bonne idée. Puis tous ceux qui s'intéressent en plus et qui bougent en même temps pourront écouter en même temps que certains écoutent en roulant, certains écoutent en courant, certains écoutent dans leur voiture, certains écoutent... Alors, j'ai jamais vu quelqu'un qui écoutait les épisodes en faisant la cuisine et qui m'a dit ouais, mais en fait, ils aiment pas. Enfin, ceux que j'ai vu qui écoutent en faisant la cuisine ou en travaillant, en fait, ça leur donne trop envie de bouger, donc c'est pas le meilleur truc. C'est pour ça que je dis que les podcasts sont optimisés pour ceux qui courent et qui roulent. Voilà. Parce que sinon, ça donne trop envie de bouger. Et moi, j'ai même fait des épisodes en courant, vraiment, et les gens me disaient « c'est super sympa, mais ça donne trop envie de bouger, donc je peux pas le faire. » Donc voilà. En tout cas, écoute, tu sais ce que je fais. Moi, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. J'ai noté tous les liens. Yes. Je mettrai aussi les liens vers les courses pour que les gens puissent découvrir, ceux qui connaissent pas, les différentes courses, les Silk Road, Hellenic, l'Atlas et compagnie. Les liens, bien sûr, vers tes profils à toi, vers le podcast, parce que c'est sur ton compte Instagram, on les trouve facilement. Donc, je mets bien entendu tous les liens. Et puis, écoute, je te souhaite des belles aventures. Peut-être ça va donner envie à certains de bouger, de bouger comme ça. S'il y en a qui ont du boulot pour toi, qui te contactent, qui n'hésitent pas. Tu me donneras aussi, je pense, si tu as un compte LinkedIn, tu enverras ton compte LinkedIn. Parce que c'est par LinkedIn que je t'avais repéré, en fait, que j'avais vu ton aventure sur LinkedIn. Donc, je sais que tu es sur LinkedIn. Donc, je partagerai aussi le compte LinkedIn. Et puis, nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis pas, alors, j'en sais rien si j'ai un invité ou si ça sera en solo. On se rapproche du Gravelman Auvergne. On se rapproche de la première échéance du Gravelman Auvergne. On verra. On verra suivant ce que j'ai raconté. On verra si je suis solo ou si je mets un invité. En tout cas, on va continuer à parler de vélo, de ma découverte du vélo, de ses aventures. Et plus j'en découvre, et plus j'avance, et plus je découvre des trucs. Ce que je disais ce matin à quelqu'un, je disais, mais c'est incroyable dans le vélo. Il y a des aventuriers, il y a des aventures, des trucs comme ça que je ne pouvais pas imaginer vraiment. Par rapport à la course à pied, c'est encore un autre monde totalement différent. Et tu nous l'as bien montré aujourd'hui. Et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Belles aventures et bonne continuation. Ciao, ciao.
Un grand merci, Bertrand.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.